Vous comprenez mieux maintenant, sans doute, pourquoi tant d'hommes et de femmes sont morts dans des camps de concentration où toutes les conditions avaient été programmées et remplies pour qu'ils soient exterminés en totalité. Ce qui nous est difficile de traduire au-delà de l'énumération des mouvements, des stades de la vie journalière, qui nous est difficile de traduire et de communiquer, c'est ce climat d'angoisse, de peur, de terreur permanente. Car il n'y a pas de mots, effectivement, pour définir un tel état. Nous vivions dans la peur, nous étions la peur. Qui toutefois, nous allons le voir, ne nous a pas totalement paralysés. Vous avez entendu à plusieurs reprises les noms de Vorarbeiter et de Capot. Il est peut-être nécessaire ou utile de vous indiquer de quoi il s'agit. Jacques Rébaud vous a dit qu'il s'agissait de ces êtres qui avaient été extraits des prisons centrales allemandes en raison de leur férocité, de leur dévouement sexuel ou de leur bestialité, il n'y a pas d'autre terme. Ces êtres-là, les Vorarbeiter, c'est ceux qui vous encadraient au travail. Ils n'avaient aucune compétence technique. Vorarbeiter, ça vient avant le travail. Arbeiter, c'est travailleur, et fort, c'est avant. Donc, un genre de contremaître. Mais un contremaître singulier, en ce sens que n'ayant aucune compétence professionnelle, son strict rôle, c'était de frapper, de nous abreuver d'injures, de nous inciter à un travail plus rapide, de frapper ici et là pour l'exemple. Et le capot, dans un autre registre, le mot capot, vous le rapprochez naturellement de capitaine ou de capitaine, c'est celui qui commande, K-A-P-O, jouait le même rôle en dehors des lieux de travail. Jusque dans les blocs, il y avait ce climat de terreur entretenu par les blocs et les testeurs. C'est-à-dire les anciens du camp, le chef de bloc. Chef de bloc qui était souvent assisté de jeunes Russes ou de jeunes Ukrainiens qui, de fait, étaient leurs créatures et qui jouaient les petits tyrans. C'est ce qui explique que nous sommes constamment soumis à ce climat d'épouvante qui en a fait vaciller plus d'un. Voilà, je pense, ce qui pouvait être ajouté sur ce que fut la vie au camp.
Question suivante. Question suivante, s'il vous plaît. Oui.
Quelle relation subsistait entre les déportés dans les camps?
Quelle relation subsistait entre les déportés? C'est une question importante. Car celui qui se réfugiait dans une situation individuelle, il allait immanquablement mourir. Donc les relations qui s'établissaient ou pouvaient s'établir entre déportés était variable, suivant qu'il s'agissait de relations avec des déportés français ou des relations avec des déportés étrangers. S'agissant de déportés français, ces relations-là étaient recherchées. Car les Français se trouvant ensemble, dans le plus grand nombre possible, étaient en quelque sorte caparaçonnés contre l'adversité. Être français ensemble, c'est parler de la France, c'est parler de ses projets, et oui. C'est évoquer le passé pour dire comment il sera traité dans le futur. C'était ça, se trouver entre français. C'était aussi, nous y verrons tout à l'heure, c'était sa portée d'une solidarité dans des conditions que nous verrons. Par contre, les relations entre français et détenus des autres nationalités, il y en avait 18, les principaux étant les Slaves, les Polonais, les Russes, les Ukrainiens, les Baltes et les Biélorusses. les relations avec les déportés étrangers, disons-le sans détour, elles étaient mauvaises. Elles étaient détestables par le fait d'une situation stupide, mais cruelle, c'est que les déportés étrangers, quelle qu'ait pu être leur nationalité, avaient tous des motifs importants de se plaindre de la politique de la France qui les avait conduits dans cette situation de détenus, de déportés, d'exacerbés. Nous n'allons pas refaire l'histoire, vos professeurs sont là pour cela, non pas pour la refaire, mais pour l'indiquer. La politique menée par la France de 1933, avènement de Hitler, jusqu'à 1940, fut une position en tout point détestable, qui ne constitua qu'une série d'encouragements à Hitler de poursuivre son programme qu'il avait minutieusement écrit en prison, le livre Mein Kampf, qui fut un peu sa charte. Français et Anglais n'ont fait que multiplier les reculades du ventre mou devant les prétentions et agissements de Hitler. Énumérons rapidement. Les Espagnols, dès avant la guerre, dès la retirada, le reflux des réfugiés espagnols vers la France, notamment au Pertus, en février 1939. Ces gens-là, 400 000, ont été reçus dans des conditions épouvantables, parqués entre la dune et la mer, dans les camps du Roussillon, sans alimentation, sans tinette, sans moyens de subsistance, atroces. Et il en fut de même dans les camps qui se constituèrent enfin, qui avaient l'apparence et qui offraient les possibles d'un camp, mais où les conditions demeurèrent désastreuses et meurtrières pour les Espagnols. Et un certain nombre d'Allemands antifascistes qui étaient traités de la sorte et cherchaient refuge en France. Les Tchèques ont vu leur pays envahi par les troupes hitlériennes au lendemain des accords de Munich, auxquels Daladier français et Chamberlain anglais ont souscrit, laissant les mains libres à Hitler, qui, après avoir annexé les Sudètes, a annexé l'ensemble de la Tchécoslovaquie. À noter que la Tchécoslovaquie était dotée depuis la Première Guerre mondiale, d'une ligne fortifiée semblable en tout point à la ligne Maginot et qui d'ailleurs avait été payée par les contribuables français. Malgré cela, nul ne réagit à cette annexion. Pas davantage qu'on avait réagi 2 ans plus tôt à l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion par Hitler de l'Autriche. A noter là aussi qu'une partie autrichienne était favorable à cette annexion, mais une partie seule. Voilà donc des êtres qui, ayant des motifs singuliers d'en vouloir à la France, et nous le comprenions, commettaient cette erreur fondamentale et combien cruelle pour nous de nous identifier, nous, à cette France-là. Alors nous étions nous-mêmes victimes de cette même France, de ces mêmes gouvernants français que nous avions combattu à notre temps, du moins les plus âgés, et nous étions en tout cas victimes de la politique. Il en fut ainsi. Vous savez, lorsque les êtres sont au fond de la détresse, c'était le cas de ces camarades étrangers comme les camarades français, ils ne se posent guère de questions. Vous êtes français, ils vous identifient au pays qui a failli. Cette situation a duré longuement, trop longuement. Elle a été préjudiciable à tous les Français qui se sont trouvés dans cette situation, et certains même isolés au milieu de groupes polonais, ukrainiens ou russes, en sont morts. Les conditions de leur mise à mort se sont trouvées hâtées par cet isolement. Cette situation dura trop longtemps, bien sûr, mais elle s'est infléchie. Comment et pourquoi ? Parce que les Français, d'abord, il faut le dire, c'est à mettre à leur crédit. Les Français sont une des rares nationalités qui, dans les camps, ont accepté de se mettre au service de la hiérarchie du camp. À de rares exceptions près, ils ont refusé d'être capot, ils ont refusé d'être forerunner, ils ont refusé d'être bloc et testeur. Car ça aurait impliqué de leur part de frapper leurs camarades. Cette dignité fut incontestablement observée par les étrangers, mais ne fut pas suffisante dans un premier temps pour modifier leur attitude à notre égard. Puis, le temps venant, des événements venus d'extérieur, car ce camp aussi imperméable était-il, ne l'était pas à toutes les nouvelles, nous avions des nouvelles de l'extérieur, y compris par les journaux allemands, qui traduisaient au fil du temps les revers de l'armée allemande, car depuis Stalingrad, l'armée allemande ne connut que des revers. Et c'est ainsi que l'on a pris le rôle joué par les forces françaises libres qui, d'Afrique du Nord, ont participé à la reconquête, au combat en Sicile, au combat en Italie. Ce sont les Français, sous la houlette du maréchal Juin, qui ont ouvert aux Américains la route de Rome. Les Français, le 15 août 1944, ont débarqué massivement sur les côtes de Provence. Ils ont libéré Toulon, Marseille, le couloir rhodanien, toute la vallée du Rhône, et allaient combattre en Alsace. C'est eux qui allaient les premiers passer le Rhin, contre les Américains d'ailleurs. Le soulèvement insurrectionnel de Paris, en fin 25, 26 et 27 août 1944, c'est le peuple de Paris qui libéra sa capitale, avec la venue de Leclerc dans les dernières phases, les troupes de Leclerc. Ces événements furent connus. Et c'est ainsi que la véritable France que nous pensions incarner a été enfin reconnue de ces détenus étrangers. Il en est résulté un changement d'attitude. Nous avons recouvré leur estime et en certains cas leur amitié quand ce ne fut leur solidarité. Une autre question, s'il vous plaît.
Oui. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, devant, il y a une question. Oui.
Bonjour. Avez-vous souhaité et pu reconstituer un réseau de résistance dans les camps?
Est-ce que vous avez pu reconstituer un réseau de résistance dans les camps, à l'intérieur des camps?
Oui. En tant que Français, dans l'autre défense, le jour qu'on s'est retourné dans le camp de concentration, il y a eu la volonté unanime de tous les Français détenus de mettre ses sensibilités personnelles sous le coude. Et cette tolérance ainsi exprimée a permis le miracle de la concentration en Asie, qui fut la solidarité. Et ça, c'est une tolérance sur le pays. Cette solidarité a permis à quelques-uns d'être de ce monde. Donc nous sommes les héros. Comment s'exercer cette solidarité? On ne peut pas dire que c'est une solidarité matérielle. On vous a déjà exprimé amplement combien était dit pénible la vie du déporté. C'était une solidarité que j'appelle la solidarité des mains vides. Quand un des nôtres, d'abord on s'est constitué en groupe, multiple. Moi personnellement, nous étions un groupe de quatre, trois qui étaient susceptibles de recevoir le colis de la famille. C'était des hasards, tout à fait. Et il y en a un qui nous a dit, mon jeune camarade, Sa maman est aveugle, il est orphelin de père, il n'en recevra pas. Est-ce qu'on peut le prendre dans notre groupe? Ça est une amie, mais on a dit oui. Et déjà, en perspective des colis qu'on allait recevoir. Et puis sur la solidarité qui se sont fait aussi, sur les commandos, les camarades de travail, les camarades de table, qui ne sont différentes, les camarades, ça ne s'explique pas. Les atomes crochus qu'il peut y avoir entre des individus. Cette solidarité nous a permis d'avoir des réunions, des discussions entre nous. Dans les rares moments où on était libres. Discussions qui se traduisaient par des projets d'avenir, parler du pays si on était mis dans le coin. Ceux qui avaient reçu l'instruction qui nous faisait partager une parcelle de leur savoir. Ceci nous maintenait moralement. Ceci évitait qu'on sombre dans la folie concentrationnelle. Et ceci a permis aussi d'organiser la résistance. Résistance qui n'aurait pas pu exister sans cette solidarité. Résistance, réduire les cadences de travail, saboter le boulot. En ce qui me concerne, les travaux publics, au bord de la barre, on est en train d'agrandir une usine de 10 000 ouvriers. On a emmené un générateur, pour ne pas faire une ligne électrique. La nuit, c'est des civils autrichiens qui s'en occupent. Le jour, c'est des déportés, des camarades. Ces civils autrichiens ont réussi à, selon la formule allemande, à organiser un poste, c'est-à-dire à se procurer soit le volant, soit le bricolant, avoir un poste. Nous avons des nouvelles de la radio anglaise, Radio Marbelée, qu'on appelle. Et le matin, quand ils arrivaient, ils portaient dans une cache qu'ils se sont choisis en commun, ils retirent les papiers. C'est ainsi qu'un jour, j'ai appris, trois jours avant que ce soit annoncé par la radio, la propagande allemande, que la ville de Smolensk s'était tombée. Ils ne disent pas qu'ils ont tombé, qu'ils ont perdu, reculé. Non, un repli élastique, ils expliquent ça ainsi. Il fait un repli élastique. De manière aux troupes de choc à ce qu'elles s'engagent dans cette poche, ensuite on referme derrière et on détruit cette poche. Mais de repli élastique en repli élastique, ils sont arrivés à la capitulation de la Hollande. Ça n'a de rien. Mais imaginez-vous qu'un copain qui est en train de décrocher, qui perd tout espoir, qui a le moral dans les chaussettes, comme vous dites. Il va y arriver un copain qui va y avoir, t'as vu, ça, son ex. À Noël, on est chez nous. Rien que ça, ça va le remonter. Et lui qui a laissé partir dans une détresse mortelle, se raccroche à la vie. Et grâce à ça, à ces nouvelles qu'on obtient par des moyens détourné, grâce à ça, et puis on enjolive un peu le mensonge de charité. Et il se raccroche à la vie. Et peut-être qu'avec ce moyen-là, il y a quelques gens qui sont rentrés grâce à ça. La solidarité, solidarité des mêmes. Lui va vous en parler mieux que moi, du sabotage. Mais pour faire un sabotage, il y a des mouches. Des mouchards. Que ne ferait-on pas pour une rondelle de pain? Alors, il faut qu'il y ait toute une organisation déjà qui vous indique la nature du sabotage que vous devez faire. De manière que ce ne soit pas détectable. Et il faut qu'il y ait toute une équipe qui surveille les environs de manière qu'il ne soit pas pris. Car, s'il se fait prendre, c'est l'extermination. Si on ne le prend pas, il y aura des otages. On vous l'a montré, en mission, le soir rentrant en temps. Tout cela n'a pu se faire que solidarité. Et dans les marches de la mort, cette solidarité qui s'est dépassée pour devenir le don de soi-même. On est un groupe de quatre copains, on marche, on en parlera plus tard de ces marches de stabilisation. Mais grâce à cette solidarité, on arrive à en sauver des gens encore. La main a mis le crapet sur le malheureux, nous, on l'entoure, on le prend en charge et on le sauve. Quelques-uns sont rentrés grâce à ce
Très bien. Vous le comprenez mieux maintenant. La résistance a pu s'exercer dans les camps, mais elle n'a pas été le fait du plus grand nombre. Car le plus grand nombre était trop diminué physiquement. La misère physiologique et parfois psychologique était telle chez ces êtres qu'ils ne pouvaient point s'engager sous quelque forme que ce soit dans un mouvement résistant dans les camps où l'ennemi est partout. La Gestapo est présente dans les camps. La Gestapo est présente parmi des détenus qui sont des mouchards. Il y a des mouchards dans les camps comme il y a dans toutes les prisons, on les appelle les moutons. C'est ce sabotage qui fut donc l'action la plus édifiante de la résistance, fut celle qui s'est exercée dans les usines d'armement. Ce sont les usines d'armement qui ont reçu le plus grand nombre de déportés. Ils devaient y être occupés dans les conditions que Grébol vous a indiquées, jusqu'à être exténués. Leur travail devait être conduit jusqu'à l'extermination. Erschöpfung en allemand. Cette résistance sous la forme du sabotage n'était pas une opération facile. Elle était périlleuse à tout point de vue. Et elle supposait, j'agrée, vous l'avez, elle supposait un encadrement, une solidarité agissante. Pour ma part, j'ai été successivement occupé dans une usine d'aviation où l'on fabriquait des quadrimoteurs, des bombardiers légers, Heinkel. Puis dans une fonderie où l'on produisait des grenades anti-chars. Dans ces deux établissements, j'ai été témoin d'un sabotage astucieux, intense, important, ayant affecté très sensiblement la production dans les deux cas. J'y ai participé à ma mesure, j'ai surtout conservé le souvenir des actes accomplis par des camarades à mes côtés. S'agissant de construire un avion aussi complexe que le bombardier quadrimoteur, qui de surcroît devait répondre à des exigences nouvelles avec du point de vue de la performance, cette construction est menée dans 7 grands halls de fabrication différents, dispersés sur un terrain de 20 hectares. Dans chacun de ces halls de fabrication, il y avait des Français. Je ne veux parler que du sabotage exercé par les Français, qui ne furent pas les seuls à agir de la sorte. Mais celui dont nous avions connaissance était celui que nous exercions entre nous. Et nous, Français, pour ce sabotage, avions un privilège. C'est que dans nos rangs, et ce fut singulièrement vrai dans ce qu'on voit du 23 janvier 1943, de 1466 hommes, où il y avait de nombreux ouvriers, des syndicalistes, des contremaîtres, des ingénieurs, qui étaient rompus à l'action, à la vie industrielle, dont certains étaient issus de l'industrie aéronautique. Et ceux-là, comme Jacques Rébeau vous l'a dit, c'est ceux-là qui nous ont enseigné là où et comment le sabotage pouvait s'exercer. Il s'agissait d'une manière la plus discrète possible, indétectable, disait-il, ça et là, tout au long de la chaîne, de marquer de son sceau que c'était une ligne électrique qui était coupée. C'était là deux rivets, ou trois rivets, trop rapprochés, qui allaient engendrer une ouverture de la tôle. La liste serait longue pour définir ce que fut cette série de sabotages. Je veux simplement vous dire que cet avion, un 477, sur lequel la Luftwaffe et Göring en tête comptaient beaucoup, cet avion fut un cauchemar pour les pilotes allemands. Ils l'appelaient soit un briquet volant qui s'enflammait en vol, soit un Zeppelin volant parce qu'il s'écrasait, il se crachait. Et ce type d'accident, l'un comme l'autre, était dû au sabotage réalisé par les déportés. Donc, cette usine a été bombardée le 18 avril 1943, 4, et à la suite de quoi, les déportés ont été dispersés entre différents camps et commandos. Pour ma part, j'ai été affecté dans cette forme dont je vous parlais à l'instant. Donc, travail à feu continu. Nous étions logés à part dans un camp spécialement affecté pour cette fonderie et cette briqueterie à la fonderie. Il y avait là aussi sabotage à tous les stades de la fabrication, à la fusion dans le four. Mes camarades russes et français qui travaillaient au four, il y avait 3 fours, mais 2 seulement travaillaient simultanément en activité. Ceux français déportés qui travaillaient là se sont ingéniés à mélanger le coq et les métaux, les minerais, de telle sorte que le four s'encrassait, à tel point qu'il se bloquait, la production était subitement arrêtée. Ce n'est d'ailleurs pas une formule qui nous conduisait au repos, parce que les SS profitaient de l'arrêt momentané de la fonderie pour nos employés à l'extérieur. Nous sommes en hiver 44-45, le plus rigoureux de la guerre. Il fait moins 15. Nous sommes à 30 km au nord de Berlin et on doit, sous la neige, rechercher les mains nues des baïonnettes qui viennent de tous les pays, y compris de France, des aciers fins destinés à la fonderie. Les doigts collent. Par le gel à ce métal. C'est l'enfer. Néanmoins, le sabotage entraînait inévitablement une réduction de la production, par définition. Ensuite, lorsque la fonte était versée dans les moules où elle devait se solidifier pour former les objets recherchés, elle était versé de façon telle qu'il en résultait une déformation des produits finis. Déformation accentuée lors du démoulage. Démoulage, c'est sortir la pièce fondue de sa gangue de sable et huile. C'est particulièrement à cette tâche-là que j'étais affecté. Et nous nous empressions de démouler les grenades alors qu'elles étaient encore rouges. Donc, elle était sensible au choc ou à la pression. Il en est réputé quoi, tout ça. Que les deux tiers des grenades sorties de la Gisreit, de la fonderie, ont été mises au rebut. Ce sont, je pense, 2 exemples édifiants de ce qu'a pu être le sabotage, forme essentielle de la résistance dans les camps.
En ce qui me concerne, j'étais dans une usine de cellulose qui employait 10 000 ouvriers. On était employé à l'extension de l'usine. Et lorsque les Russes, à l'avance des Russes, on nous a évacués, cette unité qui était chargée de purifier les effluents de cette usine avant le rejet dans là-bas n'a jamais fonctionné. Quand on nous a évacués à l'avance des Russes, nous avions, grâce au sabotage différent que nous avions fait, nous avions 6 mois de retard sur le programme étal. Et quand nous sommes partis de Kustril, nous étions tout fiers de ces 6 mois de retard. Ce n'a pas été sans mal, parce qu'une fois ils se sont rendus compte que la chape d'une usine où il devait y avoir des machines qui pesaient 4 tonnes était défectueuse. Ils nous ont armés de masse de baramine. Et il a fallu qu'on défonce toute cette chape. Pour nous, ça a été une fatigue supplémentaire. Mais pour eux, ça a concrétisé les 6 mois de retard.
Question suivante, s'il vous plaît.
D'accord. Question suivante, s'il vous plaît.
des questions sur les liens entre les déportés, leur famille.
Oui. Cassandra, oui, vas-y, vas-y.
Donc, lorsque vous étiez dans le camp, est-ce que vous aviez des liens avec l'extérieur, vos familles en particulier ?
Oui, est-ce que quand vous étiez à l'intérieur des camps, vous aviez des contacts, des relations avec l'extérieur, et notamment vos familles ?
Nous avons eu pendant un temps l'occasion d'écrire à nos familles. Voilà des exemplaires qui datent du temps de l'occupation. Dans ces lettres-là, vous voyez le trait bleu, ça passait à la censure. Devait être écrite en allemand. Et on devait dire aux familles que nous allions bien, que tout allait bien, que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais, ici, à l'écriture, il est écrit à l'usage des familles qui peuvent envoyer des mandats et des colis de nourriture autant qu'ils veulent. Maman m'a fait pendant la guerre une quinzaine de colis malgré les restrictions. Disons qu'autour d'elle, la solidarité a marché aussi. J'en ai reçu deux. Par solidarité, avec mes quatre copains, on les partageait. Disons que là-dessus, ça servait simplement à prouver que le jour qu'elle avait signé cette lettre, vous étiez encore en vie. Tout le reste, c'était des directives allemandes, et ce les étaient écrits en allemand, et c'était censuré. Si on passait outre, la lettre était détruite, et il y avait des châtiments corporels à celui qui avait été en compte de ces instructions données pour cet établissement de cette lettre. Il y a eu ceux qui étaient là, où il y avait muet brouillard, marqué dans le dos. Eux, ils n'avaient pas le droit d'écrire chez eux. Il fallait qu'ils disparaissent sans laisser aucune trace. Alors, après, bien sûr, quand ça a été coupé, plus rien ne passait, la courrier s'est arrêté. J'ai eu à l'occasion un formateur allemand, un jeune, un pompier de Berlin, qui nous a dit, je suis en rapport avec un travailleur libre qui rentre en France, si vous voulez qu'il a vos familles, on va faire passer des lettres. On a écrit, ou on mettait dessus la vérité. Et puis quelqu'un nous a dénoncé, on l'a su assez tôt, les lettres ont pu être brûlées. J'étais interrogé pendant 3 jours. Et j'étais condamné, tenez-vous bien, à 3 mois de commando pénitentiaire. On a dit que le travail devait exterminer le monde. Imaginez-vous dans un commando pénitentiaire où j'étais chargé de balancer par le gueulard des broyeuses 100 mètres cubes de bois par jour. Des agrumes qui faisaient 2 mètres de long, à peu près entre 15 et 30 cm de diamètre. C'était des broyeuses énormes. Et j'ai eu la chance. Là aussi, la solidarité. Pendant un mois, quand la soupe était servie, avant de distribuer le rabiot, j'avais droit à une soupe supplémentaire. Et après, partout. Au bout d'un mois, sur les 3 machines, 2 ont été hors d'usage. On s'est retrouvé à 3 pour une machine, ce qui a permis, à 3 ça devenait possible, alors je n'ai plus touché le rabiot. Pour vous dire qu'une solidarité matérielle existait aussi, mais ça, c'était plutôt l'effet moral que ça avait. Cette soupe que je vous ai expliquée, une louche de plus, qu'est-ce que ça m'a apporté ?
Les nouvelles de l'extérieur, ce n'était pas seulement avec les familles, malgré l'importance qu'il y avait de maintenir un certain contact, même censuré, avec les familles. C'était aussi de connaître la situation extérieure sous l'angle militaire, de savoir comment les lignes de front se déplaçaient, de savoir, quand nous étions aux aguets, de connaître les nouveaux revers que la Wehrmacht pouvait connaître sur tel et tel front, car on a eu à cette époque 3 fronts dans le même temps. Eh bien, bien que constitué comme il était, les camps n'ont pas pu interdire que qui pénètre des nouvelles extérieures, avec retard, certes. Et dans la plupart des cas, ces nouvelles ont été fournies par les Allemands eux-mêmes, par les nazis eux-mêmes. Car dans les camps, les prominentes, c'est-à-dire ceux des détenus qui avaient un rôle de premier plan allemand, avaient droit à lire des journaux allemands. La Deutsche Gemeinzeitung, c'est un journal nazi, bien sûr. Et ces journaux, comme dans tout pays belligérant, avec un retard parfois considérable, étaient bien obligés d'indiquer ce que Jacques Rebol appelait un repli stratégique, le mouvement en retrait des lignes de front. J'ajoute d'ailleurs, pour la petite histoire, que ayant, à partir d'un journal, une carte d'Allemagne allemande, est adressée une carte de cette même Allemagne sur un papier sur lequel j'avais pas, que j'ai établi à l'aide du verso d'un plan, d'un plan de travail. Et sur cette carte, étant à l'affût des indications qui nous étaient fournies quant au repli successif de l'armée allemande, j'ai indiqué par un trait rouge ce qu'était à l'est et à l'ouest la progression des Alliés. Et, ça nous ramène à la question précédente, c'est cette carte que j'utilisais, que nous utilisions comme moyen pour aller vers ceux de nos camarades les plus terrassés et les plus harassés qui étaient disposés finalement à lâcher la rampe pour leur montrer que la fin était proche, que les alliés progressaient, que la bête allait enfin être exterminée. Et ce fut sans doute de certains secours pour certains, car malheureusement, pour bon nombre d'entre eux, la mort avait déjà fait son œuvre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces nouvelles avec l'extérieur. Et puis il y avait aussi un autre moyen que nous avons connu, surtout à partir de fin 1944, ce sont les tracts qui tombaient du ciel, qui tombaient des forteresses volantes. Certains sont tombés sur les camps ou les commandos. Il s'agit de tracts en allemand, bien sûr, destinés à la population allemande, pour indiquer quelle était la situation réelle des fronts, que là, pour indiquer également que la défaite hitlérienne était inexorable et proche. Nous utilisions également des informations venues par ce canal-là, ce désert, pour informer et renseigner les cartes dont je vous parlais à l'instant, à l'usage de nos camarades les plus démoralisés. Autre question.
Oui, une autre question, s'il vous plaît.